BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission l'association de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Sabah El Asri, présidente de l'association Les Papillons de l'Ombre. Sabah El Asri, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par une présentation de cette association. Dans les grandes lignes, à quoi sert-elle et pourquoi l'avoir créée ?
Elle sert à aider les assistants familiaux de tous les départements à pouvoir travailler sereinement. On les conseille, on les guide, on essaye d'améliorer les conditions de travail qui aujourd'hui n'est pas facile. Et elle a été créée pour pouvoir avoir un avenir serein sur le métier.
Vous l'avez créée quand ?
En février 2021.
Faites-nous d'abord le point sur la situation des assistants familiaux en France et notamment dans le Mantois. Voilà, quelle est la situation ? Est-ce qu'elle est urgente ?
Oui, la situation est urgente puisque c'est un métier aujourd'hui qui n'est pas reconnu, qui n'est pas intégré dans les institutions, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un mal-être qui est posé, une souffrance. J'ai envie de même dire qu'il y a limite un burn-out qui est en train de se créer, d'une fatigue oppressante d'appel au secours des assistants familiaux qui n'est pas entendu, et qu'aujourd'hui, on met des choses en place sans leur demander leur avis. On leur impose, on leur met une étiquette, et c'est comme ça, c'est pas autrement.
Quelle est l'évolution finalement du statut des aidants familiaux, des assistants familiaux ? Dernièrement, au mois de décembre, il y a eu une loi adoptée à l'Assemblée nationale.
Il y a eu une deuxième lecture de la loi à l'Assemblée nationale, effectivement, qui a été votée. Rien.
Concrètement, pour bien que les auditeurs comprennent, qu'est-ce que vous réclamez ?
Alors nous, on réclame à ce que le métier soit reconnu, soit respecté, que ce qui a déjà été voté soit mis en place, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le Parlement, le Sénat votent des lois, mais ne sont pas mis en place par les départements. Je peux vous donner un exemple de ce qui n'est pas mis en place. Le PPE, le projet personnalisé de l'enfant, qui a été voté en 96 au Sénat, mais qui aujourd'hui n'est pas mis en place, ou très très peu par les institutions. Ou alors, ils le mettent en place, mais qu'entre eux. Ils n'invitent pas l'assistante familiale, tout est imposé. Le projet n'est pas fait avec l'enfant, l'assistante familiale, les parents et le service. Il n'est fait qu'avec le service, les parents et l'enfant. Et on dit à la SFAM, c'est comme ça. Mais 98% des situations des enfants placés n'ont pas de projet personnalisé, on va à la pêche. On va faire ça, on va faire ça, on imagine. Et au final, on arrive aujourd'hui à un échec des placements où les enfants arrivent à 18 ans sur un cursus scolaire, n'ont rien.
Alors, en créant cette association, quel est votre objectif ? Qu'est-ce que vous espérez à terme ?
On espère que le métier soit reconnu, soit respecté, qu'on arrive à travailler en équipe, qu'on ne soit pas considéré comme un hôtel, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on est, on donne à manger à un enfant, on lui donne une chambre, on lui lave son linge et il n'y a rien d'autre, qu'on soit pas une partie intégrante des institutions, et que tout ce qui a été voté auparavant soit mis en place pour l'avenir des enfants placés, qui aujourd'hui un enfant placé, quand il quitte le service de l'aide sociale à l'enfance, ressort épanoui et non pas détruit.
Oui, parce que c'est le double objectif, à la fois pour le métier d'assistant familial qui est très compliqué, mais aussi évidemment pour les bénéficiaires que sont les enfants.
L'un ne va pas sans l'autre. Si l'enfant, tout se passe bien pour l'enfant, tout va bien pour l'AF, l'assistante familiale. Si tout va bien pour l'assistante familiale, tout va bien pour l'enfant. C'est qu'on est complémentaires. Et l'enfant, aujourd'hui, le mal-être des assistants familiaux, ce n'est pas hormis qu'il n'y a pas cette reconnaissance ou autre, c'est de voir la souffrance des enfants, où rien n'est mis en place, où l'enfant, son référent n'est pas là, n'est pas présent, ne répond pas à ses demandes, ou quand il y a des demandes, mais le parent est contre le placement, le service ne prend pas ses responsabilités de faire en sorte que l'enfant obtient ce qu'il doit obtenir. Les juges, pareil, ne prennent pas ce risque, donc ils laissent sous l'autorité parentale et au final, l'enfant est suspendu.
Alors, votre association a été créée tout récemment. Le premier événement que vous avez organisé, c'était au mois de novembre, un déjeuner avec beaucoup d'assistants familiaux. Donc, quel était l'objectif de cette rencontre ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
Cette rencontre a été faite pour se rencontrer, parce que on ne se connaît pas. Les services ont toujours fait en sorte qu'on ne se croise pas, qu'on ne se mélange pas. Ou alors, quand il y a des événements dans les services, il y a toujours une tierce personne qui fait qu'on n'est pas libre d'être ensemble ou de discuter, qui fait que on s'évite, parce qu'il y a aussi cette tension qui a été créée. On devient, et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire disparaître, c'est qu'on devient des ennemis. L'un a peur de l'autre. Il y a eu un repas qui a été fait de convivialité avec des changes. On a présenté. On devait avoir une intervention qui n'a pas eu lieu. On a présenté ce qu'on fait. Il y a eu une vidéo qui aujourd'hui a été mise en ligne sur YouTube, et il y a eu un débat d'échange, et là où on a pu constater la souffrance de chacun, et que aujourd'hui beaucoup disent vouloir quitter le métier.
Vous avez pu à cette occasion du coup recueillir les différents témoignages.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui est ressorti? Quels sont les principaux problèmes au quotidien vécus par ces assistants familiaux?
Le dénigrement des travailleurs sociaux, le fait qu'ils dénigrent l'assistant familial, le manque de moyens donnés à l'enfant placé, les soins qui ne sont pas mis en place pour les enfants placés, leurs droits CMU ou CMUC, qui ne sont pas mis en place, où aujourd'hui on impose à l'assistant familial d'avancer les frais pour pouvoir soigner l'enfant. Si c'est pas fait, elle est convoquée parce qu'on lui reproche de ne pas l'avoir fait. Il y a aussi ce non-réponse des travailleurs sociaux quand un assistant familial fait un écrit de ce qui ne va pas, il n'y a pas de réponse, donc il ne sait pas comment réagir. Et s'il a réagi, on lui reproche d'avoir réagi.
On va s'intéresser à la situation de ces enfants. Ils sont placés jusqu'à quel âge? 18 ans?
Alors l'agrément est donné de 0 à 21 ans. Il y a les placements judiciaires. Il n'y a pas de date. C'est d'audience à audience. Vous avez des audiences qui sont de 6 mois en fonction de la situation. Vous avez des placements qui sont d'un an, annuels. Et chaque année, en fonction de ce qui a été mis en place, du travail qui a été fait avec le parent... soit il y a le maintien du placement, soit il y a un retour qui est mis à la famille. Donc vous pouvez avoir un placement qui est de 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, où un enfant va être placé à vie.
Et donc c'est très important pour l'enfant, son avenir se joue finalement dans ces années-là, parce que
oui.
Par la suite, après 21 ans, l'affaire peut se compliquer pour lui.
À 21 ans, si rien n'est fait, effectivement, il devient... et en plus, il n'y a pas d'aide pour ses enfants. Donc au final, il finit soit dans la rue, soit dans de la délinquance. Ça dépend si après il est recueilli par de la famille. Mais effectivement, il ressort sans avoir une formation professionnelle, sans avoir été à l'école. Et c'est le placement reste très important, parce qu'aujourd'hui, on a en charge ces enfants qui ont été retirés pour X raisons, d'accord, de leur famille. Où ça peut être une carence éducative, carence alimentaire. Ça, c'est les plus basiques. Après, il y a d'autres critères. Et on est là pour apporter à ces enfants ce manque quand il y a une carence éducative. Donc, on est là pour leur apporter ce que le parent n'a pas pu apporter, de par l'assistant familial comme le service. Donc, on doit faire en sorte que l'enfant reprend un cursus de l'école, va à l'école, prend une formation, ce que ferait un parent lambda. Aujourd'hui, pour beaucoup de travailleurs sociaux, l'école n'est pas obligatoire. Un enfant, quand il va arriver, la priorité n'est pas la scolarité. Vous avez des enfants qui vont être placés 6 mois, ils n'ont pas été scolarisés, que ce soit en primaire ou en maternelle, au collège, parce qu'il faut savoir que ce qui reste très compliqué... Et ce qui est plus facile, c'est que quand un enfant est en maternelle ou en primaire, c'est avec la mairie de la commune, l'enfant est automatiquement scolarisé. Donc, le problème ne se pose pas. Quand c'est au collège, vous voyez ça avec le rectorat, c'est le collège de secteur, automatiquement, pareil, il est pris. Quand c'est lycée, c'est plus compliqué, puisque voilà, il y a des dossiers, c'est sur dossier, il faut sectoriser. Et donc, est-ce qu'il va y avoir des places? Donc, à ce moment-là, quand l'enfant n'a pas été au collège, automatiquement, il ne peut pas aller au lycée.
Et alors, lorsqu'une assistante familiale accueille un enfant en situation difficile, elle ne bénéficie pas de soutien, ou elle en a quand même?
Non. voire très très peu. Ça dépend. Ça, parce que ça, faut faire, on doit faire attention. Il y a les placements qui sont faits par les départements en direct et il y a les placements qui sont faits par les associations. Les départements délèguent à des associations et vous avez des associations qui a, où ils ont ce suivi des enfants. Vous avez des associations où pas du tout et où vous avez des associations qui disent à l'assistante familiale « Contente-toi de les nourrir, c'est pas ton problème.
» Bah, notamment, vous parlez des associations, il y a l'ASE notamment, l'aide sociale à l'enfance.
Service d'aide sociale à l'enfance fait partie du département.
Pour revenir sur les missions de l'association pour l'avenir, qu'est-ce que vous prévoyez de faire ?
Alors là, en ce moment, on est sur vouloir faire reconnaître nos droits parce qu'on a découvert par un mail gentiment envoyé par la direction qu'il y a une cellule interdépartementale qui a été créée par le département des Yvelines et les Hauts-de-Seine, une cellule de contrôle. Où dedans, ils disent instaurer le contrôle, mais pour les structures, pour les lieux de vie, mais aussi les assistants familiaux. Sauf que les présidents des départements, en créant cette structure, n'ont pas assimilé que le lieu d'accueil chez l'assistante familiale reste un lieu de droit privé. Donc, on ne peut pas envoyer deux agents faire un contrôle inopiné à tout va, parce qu'on n'ouvre pas notre porte à n'importe qui, et n'ont pas... Alors, non pas, ou alors il y a peut-être un projet derrière de disparition, la PMI. La PMI, de par notre métier, nous avons déjà des contrôles inopinés. Notre employeur, lui, est habilité à le faire, et la PMI, qui fait qu'ils existent déjà. Donc, pourquoi avoir créé une cellule interdépartementale pour les assistants familiaux, même si on dit « mais oui, mais il n'y a pas que vous, il y a aussi les foyers, il y a aussi les structures ». Non, mais on va pas se consacrer aux foyers, on va focaliser comme ce qu'ils ont l'habitude de faire, de se focaliser aux familles d'accueil, en disant « bon, on va aller contrôler une famille d'accueil ». Parce qu'aujourd'hui, la famille d'accueil, c'est devenu la bête noire. Quand un enfant va mal, c'est de la faute de la famille d'accueil. Non, c'est de la faute du fait du référent. Allez, il noie le poisson. Donc là, aujourd'hui, on fait abstraction des lois qui existent déjà. On recrée des choses, il passe plus de temps des choses à créer que d'appliquer. Donc, ce n'est pas cohérent.
Pour préciser un peu votre fonction d'assistante familiale, bah, décrivez-nous un petit peu comment vous travaillez au quotidien, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, être assistant familial, c'est accueillir un enfant qui est placé, que ce soit en placement judiciaire ou en placement administratif. Un placement administratif, c'est quand un parent ne peut pas s'occuper de son enfant, il y a une problématique, ou il est malade ou autre, demande de l'aide au service de l'aide sociale en enfance. Donc, il y a un contrat qui est fait, qui peut s'arrêter à tout moment. De là, ben, nous, on remplace un peu le rôle du parent. On réagit avec un enfant placé comme si c'était notre propre enfant. Donc, s'il est malade, on l'emmène chez le médecin. S'il doit avoir un suivi psychologique, on l'emmène, on fait en sorte d'avoir un suivi psychologique, hormis le gîte et le couvert. On fait en sorte qu'il va très bien. Il fait des activités extrascolaires. On l'accompagne à ses visites au service. On est un peu l'éponge. On est l'éponge de cet enfant puisqu'on est là. C'est lui qui nous parle quand ça va pas. On fait remonter l'information à son référent et ensuite son référent, il en fait ce qu'il a envie. S'il a envie de l'aider, ben il va l'aider. S'il veut mettre des choses en place, il mettra des choses en place. Et s'il a envie de faire abstraction, il fera abstraction.
Et donc, vous l'accueillez chez vous ?
Oui, il vit avec nous comme si c'était notre enfant. Il vit à la maison, il a sa chambre, il a un quotidien, il est dans la maison comme si c'était notre enfant.
Et donc, ça, c'est vraiment un suivi long terme, jusqu'à l'âge de 18, jusqu'à 21 ans, c'est ça ?
Ça peut. Moi, en l'occurrence, je n'ai jamais accueilli un enfant. Alors, le plus long que j'ai pu accueillir, c'est 3 ans. Hein, 3 ans, un accueil périn, il est retourné chez la maman. Et ensuite, je me suis spécialisée sur les accueils d'urgence. Donc, du coup, ça vient... on met en place ce qu'il faut pour l'enfant. On évalue, on met en place ce qu'il faut pour l'enfant, que ce soit la scolarité, un suivi psychologique. On essaie de détecter ce qui ne va pas. Et quand il s'en va, tout a été dit. Et il ne reste plus qu'à mettre à son référent de mettre en place ce qu'il faut pour l'enfant, là où il sera, dans une famille d'accueil ou dans un foyer.
Et donc, les accueils d'urgence, c'est dans quel type de cas ?
Un accueil d'urgence, alors c'est s'il y a eu une OPP, information préoccupante. Donc l'enfant, s'il est à l'école, et que par exemple c'est l'école qui a fait le signalement, bah, de l'école, la police vient et l'enfant est placé directement. Donc on va nous appeler en disant, voilà, on a un enfant, il y a une OPP qui est mise en place, on a besoin d'une place. Du coup, soit on va chercher l'enfant, nous, directement au commissariat, soit à la ZEU, soit c'est eux qui nous l'apportent directement. Le temps de l'enquête. Ensuite, il y a les accueils d'urgence qui sont, quand un enfant est pareil, il y a une ordonnance de placement qui a été faite, il y a eu une AEMO, une aide éducative en milieu ouvert. Il y a eu l'audience, le juge a décidé un placement de l'enfant. À partir de là, l'enfant doit être placé immédiatement. Il ne retourne pas chez son parent, il est directement placé. Il y a aussi une structure qui a mis fin à l'accueil parce que ça ne va pas avec l'enfant, donc ils ont arrêté avec l'enfant. Ou aussi une famille d'accueil qui a mis fin avec l'enfant parce que ça va pas. Donc, on accueille l'enfant sans savoir ce qui se passe, ce qu'il y a. On va le découvrir. On est dans la découverte sur un accueil d'urgence.
Est-ce que la crise sanitaire a modifié votre travail de quelque façon
que ce soit ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, la crise sanitaire a été très, très... très compliqué à vivre pour les assistants familiaux. Je ne peux pas parler pour moi parce que je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas travaillé sur cette période-là. Donc du coup, mais par contre, l'association a fait qu'on a été là pour les assistants familiaux. Il y a eu une souffrance parce que tout le monde a été en télétravail. Les services ne répondaient pas. Les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc il fallait les avoir au quotidien. Quand vous aviez des jeunes qui avaient l'habitude de sortir et qui n'avaient pas le droit de sortir, ben qui claquaient la porte et qui partaient. Personne pour les accompagner, donc on était en grosse crise sanitaire, les enfants sortaient, on ne savait pas où ils allaient, ils revenaient dans le lieu d'accueil, donc on ne savait pas s'ils avaient respecté les gestes barrières, qu'est-ce qu'ils avaient fait exactement. Donc quand on leur demandait, je dis « on » parce que c'est une généralité, quand il était demandé à l'enfant de rester dans la chambre, il refusait de rester dans la chambre, donc il se promenait dans la maison, donc c'était très conflictuel. C'était très lourd parce que plus personne... Les travailleurs sociaux ne se déplaçaient pas parce que il y avait confinement en plus, donc du coup personne sortait. Téléphone, tout le monde sur répondeur, livré à nous-mêmes.
Bon, alors du coup, quelles sont les prochaines étapes pour l'association afin de travailler dans la reconnaissance du métier d'assistante familiale.
De faire entendre, d'essayer, parce que c'est pas gagné, hein. C'est très compliqué, de faire entendre aux institutions qu'on n'a pas été créé contre eux, mais pour être avec eux, pour les aider, pour conseiller, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas le métier. Les travailleurs sociaux eux-mêmes ne connaissent pas le métier. Ils sont induits en erreur et ils se rendent compte parfois qu'ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Il y en a qui l'admettent, il y en a qui ne l'admettent pas. Essayer de faire en sorte que les institutions, s'ils ne veulent pas voir le métier disparaître, parce que c'est ce qui est en train de se passer, d'accepter l'aide qu'on peut apporter. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas été... on est sur... avec tout ce qui est mis en place, ce qui va être encore voté le 11 janvier, parce que là, du coup, ça a été la deuxième lecture qui a été faite le 14 décembre, le 14 et le 15 décembre, donc sera finalisée le 11 janvier. J'espère que le président du Sénat, Gérard Larcher, va réagir, de se dire que ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est pas des solutions. Ce n'est pas des solutions concrètes pour les enfants. C'est pas ce qu'il faut. Il faut qu'ils apprennent et qu'ils acceptent d'écouter les personnes concernées qui connaissent réellement le métier et qui travaillent dans l'intérêt de l'enfant pour préserver ses enfants. Parce que voter des lois, c'est bien joli, mais il y en a 50 000 qui ont été votés qui ne sont pas mis en place.
Et il faut, votre mission, c'est aussi d'arriver à faire prendre conscience que il y a peut-être de plus en plus de personnes qui veulent quitter leur poste d'assistante familiale. Et du coup, ça a un vrai impact sur les enfants.
Ah oui, parce que quand vous avez une démission, c'est brutal, l'enfant s'en va. On a un préavis d'un mois. Moi, j'en ai aujourd'hui qui démissionnent et elles déposent le jour même l'enfant parce qu'elles en ont ras-le-bol. Là, depuis la création de l'association, je compte même pas le nombre d'assistants familiales où je bataille pour pas qu'elles démissionnent. Je leur dis non, pensez à l'enfant. Quand tu prends cette décision, regarde l'enfant. Elle me dit, j'en peux plus. Oui, mais regarde l'enfant parce que l'enfant, lui, il est victime. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est au rayon fruits et légumes. Et on choisit des fruits et des légumes. Lui, il est mûr. Lui, il est bien. Il est pas bon. Allez, je le jette. Et c'est pas ça. C'est pas ça, le service de l'aide sociale à l'enfance. Ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Ils n'ont rien demandé. Donc, on se doit de faire en sorte qu'ils ont un minimum de stabilité dans leur vie et que plus tard, quand ils arriveront à la majorité, parce que c'est aussi des futurs électeurs, c'est des futurs salariés. Si, mais vu comment c'est parti, on va faire quoi ? On va faire quoi ? Ils seront tous en HP, tous internés ou tous dans la rue ? C'est pas une solution.
Autre chose que vous réclamez, vous les assistants familiaux, c'est concernant l'avancée des frais. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous souhaitez comme modification vous concernant ?
Aujourd'hui, un assistant familial, quand il accueille un enfant, on lui demande de tout prendre en charge. C'est de ses deniers personnels. Mais si vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas une confirmation écrite, vous n'êtes pas remboursé. Donc vous avez pu engager les frais vestimentaires, médicaux. Si vous n'avez pas eu un écrit du référent, vous n'êtes pas remboursé. On vous demande d'avancer des frais médicaux alors qu'il y a la CMU, mais minimum un an pour se faire rembourser. Parce que il y a un budget qui est alloué, donc du coup, c'est pas pris en compte. On demande à ce que aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut aussi les fiches de paye, parce qu'aujourd'hui, quand on voit une fiche de paye de l'assistant familial, on dit waouh, mais en fait c'est que les frais qui a été avancé pour l'enfant, et ça personne ne le voit. Aujourd'hui, on demande qu'une fiche de paye soit justement faite, qu'il y ait le salaire de base de l'assistant familial, indépendamment des frais de l'enfant, parce qu'aujourd'hui tout est mis dans la fiche de paye. Et même sur les impôts, aujourd'hui, c'est pris en compte. On nous dit que non, c'est net d'impôts. C'est faux. C'est pris en compte. Et au final, si demain, vous voulez faire un prêt bancaire pour acheter une maison, eh bien, les banques ne comprennent pas votre fiche de paye puisque le net en bas ne correspond pas à ce qui est déclaré. Et donc, du coup, c'est un peu comme si que les fiches de paye étaient faussées. On demande à ce qu'il y ait notre fiche de paye simple, avec le salaire de base, et que les frais des enfants soient remboursés indépendamment de la fiche de paye.
Autre aspect que vous dénoncez, c'est le dysfonctionnement concernant la responsabilité du référent qui n'est presque pas engagé finalement.
Oui, aujourd'hui, le référent ou le travailleur social, s'il n'a pas fait, on va dire, son travail vis-à-vis de l'enfant, on va rien lui dire à lui. Rien. Et si demain il a décidé de partir, ben il peut travailler ailleurs, librement, et reproduire ce qu'il a reproduit. Et quand l'enfant est en souffrance, eh bien on va reprocher à l'assistante familiale. On va jamais reprocher au travailleur social, qui fait que c'est l'AF qui, elle, se fait licencier. Il faut savoir que parce que plus vous avez du répondant, plus on vous range dans un tiroir. Donc du coup, pendant 4 mois, on vous passe pas d'enfant. Et pendant 4 mois, eh ben on vous licencie. Parce qu'effectivement, on signe un CDI, mais qui, dans la réalité, n'est pas un vrai CDI. Parce que 4 mois sans avoir accueilli d'enfants, eh bien, on vous licencie.
Dernière question, est-ce que, pour s'intéresser de nouveau aux enfants, est-ce que les enfants placés partent en vacances ?
Très peu, très rarement, limite pas du tout. Effectivement, il y a des colonies qui sont mises en place pour les enfants placés, ils peuvent partir en colonie, vivre comme des enfants lambda, hein. Tout est mis en place. Sauf que c'est au référent, c'est au travailleur social de faire le travail, de mettre la, et c'est jamais fait. Parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le temps. Donc au final, les enfants placés ne vont pas en vacances, ne connaissent pas ce que c'est d'aller en vacances. Là, j'ai fait un accueil. La jeune, elle est placée depuis ses 8 mois, elle a 12 ans. Elle n'a jamais été en colonie. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Les travailleurs sociaux, au lieu de se pencher sur la période, parce que vous avez les vacances scolaires, comme les grandes vacances, ils peuvent partir. C'est pas fait. Donc je me demande même le budget vacances pour les enfants placés, qu'est-ce qu'ils en font ?
Merci à vous, Saba El Asri, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir reçu.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez l'écouter le samedi à 15h et le jeudi à 19h30. Vous pouvez également retrouver l'interview sur notre site internet en podcast sur bpmlaradio.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle association. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.